Chapitre 1.
Ver de terre, d'abord, ce n'est pas très gentil comme nom. C'est fait pour blesser. Il vaut mieux parler de lombric pour leur redonner un peu de dignité scientifique. Famille, lombricidae. Espèce, lombricus terrestris. Et ces lombrics représentent la première biomasse animale terrestre. Autrement dit, si on les met tous sur une balance, ils pèseront plus lourd et de loin que les homo sapiens, les éléphants et les fourmis réunis. Pour donner un ordre de grandeur, il y en a entre 1 et 3 tonnes à l'hectare, en tout cas dans les sols où l'homme n'a pas posé ses sales pattes.
Cette courte vidéo du professeur Marcel Combes, qui circulait sur YouTube, avait donné envie à Arthur de venir assister à sa conférence. Mais en entrant dans l'immense amphi quasi vide et qui sentait le neuf, entre ces murailles de bois reconstituées qui voulaient donner un cachet nature et ne parvenaient qu'à souligner le squelette de verre et d'acier des bâtiments alentours, parmi ces étudiants dispersés dans les travées et qui n'échangeaient pas un regard, Arthur se sentit découragé. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé ses études d'agronomie. Arthur se demandait par quelle aberration on avait déménagé AgroParisTech dans le désert bétonné du plateau de Saclay. La promo précédente avait encore pu passer sa première année d'école au château de Grignon, au milieu de 300 hectares de champs et de forêts. Des générations d'étudiants avaient appris là-bas à traire les brebis et à baiser dans les taillis. Au lieu de quoi, Arthur devait badger 20 fois par jour sur les portiques et se repérer dans un dédale de couloirs anonymes où seuls changeaient les numéros sur les portes. Depuis 6 mois qu'il avait intégré l'école, il n'avait jamais aussi peu vu la nature. Dehors ne gazouillaient que les bulldozers éventrant le sol. Les chambres étudiantes ressemblaient aux salles de cours qui elles-mêmes ressemblaient à des vestiaires de gym. Il est certain que l'on gagnait du temps sur ce campus où tout était à disposition. Mais du temps, pour quoi faire? Pour mater du porno? Pour travailler encore et encore sur les meilleures formules chimiques? Qui avait envie de boire un verre dans une cafette nettoyée 2 fois par jour ou de chanter dans un bureau des élèves posé au milieu du terre-plein central comme un bocal à poisson? Dès le premier jour, Arthur s'était considéré en exil. Autrefois, une des terres les plus fertiles de France, le plateau de Saclay, avait été transformée en désert fonctionnel, une interminable zone commerciale où les enseignes auraient été remplacées par polytechnique, télécom ou école normale supérieure. On prétendait y rassembler les meilleurs cerveaux de France, étudiants comme chercheurs. Mais que devient un cerveau prisonnier d'un espace implacablement géométrique, aveuglé par les néons blafards des couloirs, immergé dans une forêt de grues? Une super machine atrophiée, prête à se reproduire avec d'autres super machines pour concevoir un monde de super machines. Était-ce la mission que l'on fixait désormais aux futurs ingénieurs agronomes d'AgroParisTech? Apprendre les bons éléments de langage sur l'agriculture régénérative pour transformer en toute bonne conscience les fermes françaises en usines à viande couvertes de panneaux solaires. Le plus pervers dans cet aménagement consistait à introduire quelques touches champêtres comme un regret. Après avoir monté un interminable escalier depuis l'arrêt du RERB, l'étudiant haletant avait la surprise de pénétrer dans un petit bois, puis dans un champ de roseaux, avant de retrouver les allées pavées et le gazon tondu à ras. Sur le campus lui-même, une noue soigneusement délimitée préservait quelques mètres carrés de nature sauvage. Autour de la minuscule plage de gravier s'étaient réfugiées des touffes d'herbes hirsutes, des joncs lançant leurs fleurs havanes en bouquet et quelques renoncules flottant sur l'eau comme des marguerites géantes. Mare au diable pour promeneur de l'Anthropocène. De toute façon, Arthur s'était juré que cet exil serait provisoire. Une fois obtenu le diplôme que la société exigeait de lui, il serait quitte. Quand on lui demandait dans quel secteur d'activité il envisageait de se lancer à la sortie de l'école, il répondait « Cultiver mon jardin ». C'était flou, mais sincère. Arthur se trouvait toujours à l'entrée de l'amphi, hésitant. Il aurait sans doute tourné les talons s'il n'avait aperçu ce garçon aux cheveux blonds, bien peigné et aux pommettes marquées. Tout en lui respirait la bonne santé et la paix d'esprit. Son t-shirt gris qui laissait deviner un corps fin et musclé, son ordinateur sagement fermé sur la table devant lui, son air impassible, attendant les événements sans se dandiner sur son siège ni tripoter son téléphone. Arthur le trouva singulier, très différent de la foule de leurs semblables qui s'agitaient sur eux-mêmes. Il s'avança jusqu'à lui et déplia le siège d'à côté. Le garçon blond déplaça son ordinateur pour faire de la place et tendit sans façon la main à Arthur, comme s'il se croisait sur un stand de foire agricole. Une telle spontanéité n'était pas habituelle, même parmi les étudiants. Surtout parmi les étudiants.
Salut, Kevin.
Kevin, sans accent sur le « e ». C'est drôle, se dit Arthur. Il n'a pas une tête de Kevin, encore moins de Kevin sans accent sur le « e ». Il se reprocha immédiatement cette pensée stupide et se présenta à son tour. Kevin lui sourit sans rien dire. Ils ouvrirent tous les deux leur ordinateur. La conférence allait commencer. Titre « Avancées et défis de la géodrillologie ». Géodrillologie, la science des vers de terre. Autant dire que, pour cet exposé qui ne figurait dans aucune partie du cursus obligatoire, il n'y avait pas foule.
« Je n'aurais peut-être pas dû venir », murmura Arthur pris d'un dernier remords. « J'ai un TD à rendre pour demain. »
« Il ne faut pas dire ça, » intervint Kevin. « C'est très cool, les vers de terre.
Pourquoi »« Pourquoi? Parce qu'on peut les couper en petits morceaux ?»«
Non, on les tue en faisant ce genre de bêtises. »
« Alors pourquoi c'est cool ?»«
Déjà, ils sont hermaphrodites. Pas très fréquents chez les animaux. C'est ce qui me fascinait quand j'étais gosse. Mâle et femelle à la fois. »«
À ce compte-là, les escargots aussi, » dit Arthur en se levant.
Trop tard. Marcel Combe, spécialiste mondialement reconnu, comme prétendait l'affiche qui annonçait la conf, fit son apparition. Arthur reprit sa place. Après tout, pourquoi pas ? Il était déjà intrigué par le conférencier. Il aurait imaginé un laborantin au teint cireux. C'était un vieux lion de plus de 80 ans, crinière bouclée, regard clair, gueule de boxeur, larges épaules. Il était vêtu avec soin. Son costume sombre lui donnait un air d'importance. Sa cravate à pois était retenue par une pince en argent. Les vers de terre avaient leur Jean Gabin. Le professeur Combe savoura son effet. Il parcourut d'un regard blasé l'assistance clairsemée, puis contempla le dispositif électronique dernier cri incrusté dans le bureau en bois massif de l'estrade.
« Mazette, vous êtes gâtée !»
commenta-t-il d'une voix éraillée. Murmure dans la salle. Les étudiants des grandes écoles adorent secrètement qu'on leur rappelle leurs privilèges.
Ils ont dû en tuer des vers de terre pour construire ce campus.
Silence. Arthur pensa à la scène de 7 ans au Tibet où les moines bouddhistes de Lhasa sauvent à la main les vers de terre avant de couler les fondations d'un bâtiment. Les architectes occidentaux ne prenaient pas ces précautions. Arthur guetta la réaction de Kevin qui restait droit sur sa chaise, les doigts prêts à frapper le clavier à la première information digne d'être notée.
« Je me présente. On va aller vite sur les diplômes. Je n'ai pas été plus loin que le certificat d'études. J'ai commencé comme jardinier. Je me suis fait sur le tas. Et puis j'ai été directeur de recherche à l'INRA, qui, si j'ai bien compris, va déménager ici, à côté de chez vous. Ils auront de très jolis labos et pourront passer encore moins de temps sur le terrain, dans les champs. Comme ça, ils diront encore plus de conneries. »
Léger hoquet. L'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique. Ce n'est tout de même pas rien. Arthur se demanda s'ils avaient affaire à un génie des sciences ou à un complotiste taré. Kevin attendait toujours face à son écran, la barre du curseur clignotant sur le document vierge.
« Ce sont les lombriques, vous le savez, qui assurent l'essentiel de la vie du sol. Grâce à leur incessante digestion, qui leur permet d'ingérer chaque jour l'équivalent de leur propre poids, ils décomposent les matières organiques en éléments biogènes, qui pourront ensuite alimenter les plantes. On estime que les lombriques avalent et rejettent chaque année 300 tonnes à l'hectare. Oui, vous avez bien entendu, 300 tonnes. En fait, la terre sur laquelle vous marchez, la terre qui nous donne à manger, c'est en bonne partie du lombrimix, c'est-à-dire du caca de vers de terre. Voilà pourquoi le grand Charles Darwin estimait que notre lombrie est l'animal le plus important de l'évolution naturelle. Sans lui, tout s'écroule.
« Ah oui, Darwin, » murmura Arthur. De vieux souvenirs d'une biographie de Darwin lui revinrent.
« C'est son dernier livre, » expliqua-t-il d'autorité à son voisin. « Il a passé des années à étudier les vers de terre dans son jardin. »
Kevin hocha la tête.
« 270 tonnes par hectare et par an, »
s'exclama le professeur. Arthur avait perdu le fil du cours. Il nota le nombre mécaniquement.
Darwin s'était contenté de calculer le poids des excréments déposés à la surface. Je suis le seul à avoir calculé le poids total du lombrimix, y compris sous terre. Le seul depuis Darwin.
Arthur et Kevin échangèrent un regard amusé.
Donc, j'espère que vous serez désormais plus poli avec les lombriques.